France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps, en Grèce, deux villes, une en Grèce, l'autre en Asie, attiraient spécialement l'attention des dieux et des déesses. Ils aimaient s'y rendre, y vivre des aventures extraordinaires, y placer leurs enfants plus ou moins légitimes. Les dieux aimaient y déployer leur lumière, leur gloire, et aussi leurs aspects les plus sombres. Dans le sol d'une ville, ils ont caché un dragon terrifiant à vous couper le souffle. Contre l'autre, ils ont fait surgir depuis la mer des monstres ou d'immenses serpents. Les dieux aimaient y faire naître des guerres spectaculaires à répétition que les humains se sont racontées ensuite pendant des siècles. Plus que d'autres, ces deux villes étaient le terrain de jeu favori des dieux et des déesses. Il s'agit de Thèbes, la grecque, et de Troie, l'asiatique.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Jean-Pierre Vernant.
Dès l'origine, au fond, chaque cité grecque a éprouvé le besoin de s'enraciner dans une espèce de terroir ou de socle indestructible. C'était des mythes de fondation.
Ces villes étaient l'une et l'autre fabuleuses, pleines d'or, de richesses. Toutes les deux étaient couronnées de remparts grandioses, connus dans le monde entier. Ces remparts avaient été construits par des dieux ou des fils de dieux. Dans ces deux villes, Thèbes et Troie, les hommes et les femmes ont vécu un âge d'or, un âge de grandeur, de prospérité, de fécondité, de familiarité facile avec les dieux, des formes de paradis. Pas des paradis lointains, seulement espérés et invisibles, mais des paradis bien de ce monde, tangibles. Mais ces paradis savaient aussi être cruels. Les deux villes furent maudites à cause de ce qui ont fait les humains. Ce n'étaient pas des paradis que l'on devait quitter d'un seul coup, une fois pour toutes, à cause d'une désobéissance envers le divin, comme Adam et Ève ont été chassés pour toujours du paradis de la Bible. On ne quittait pas ces villes d'abord bénies et bienheureuses. On y restait pendant des générations, mais sans trop comprendre pourquoi, on vivait une alternance ininterrompue de grand bonheur et de désastre. Jusqu'à la ruine finale, sans retour possible. Les dieux chérissaient ces villes, mais ça ne les empêchait pas, quand ils le voulaient, de les vouer à la destruction. Avant de les détruire, les dieux aimaient aussi déchaîner régulièrement contre elles, catastrophe après catastrophe. Comme ces villes étaient merveilleuses, célèbres, leur chute était d'autant plus spectaculaire et d'autant plus intéressante à raconter. Thèbes, la ville grecque, et Troie, l'asiatique, étaient des lieux très particuliers, différents des autres villes. Les humains pouvaient y faire l'expérience de ce qu'il y a de plus beau, de plus heureux, grandiose, glorieux et riche, brillant, dans la vie des mortels, dont la vie, quand elle est normale, est le plus souvent difficile, laborieuse, si souvent chancelante et hésitante. Mais les humains pouvaient aussi connaître dans ces villes ce qu'il y a de plus sombre, douloureux, de grands deuils, de grands chagrins. L'un n'allait pas sans l'autre. Ces deux villes concentraient, exacerbaient à un point inimaginable ce que peut réserver la vie humaine, dans le meilleur et dans le pire. Au moins, grâce à Thèbes et à Troie, à ce qu'on disait d'elles, à leur légende, les Grecs pouvaient avoir une image nette, foisonnante, émouvante mais précise, frappante, de ce à quoi peut s'attendre l'humanité. Ils pouvaient se faire une idée très claire de ce que sont ces dieux qui décident de tout. Ils pouvaient enfin comprendre et prouver la puissance des dieux, mais aussi leurs limites et leurs mesquineries. On les voyait à l'œuvre, on savait à quoi s'en tenir. On était plus libres. Troie et Thèbes, deux villes fabuleuses, aimées des dieux mais condamnées par ces mêmes dieux, détruites ou effacées. Des villes qui ne vivaient plus que dans le mythe, dans les mémoires d'un temps dépassé, définitivement révolu. Troie, l'Asiatique, n'est plus de ce monde, après une guerre de 10 ans qui l'a mise à bas. Sa si belle couronne de remparts a été démantelée, pulvérisée par l'armée grecque.
Troie, couronnée de poussière.
dit le poète toujours d'aujourd'hui, Paul Tselan. Troie n'est plus qu'un fantôme. Thèbes, la grecque, a été rayée de la carte après deux guerres, puis s'est mise à revivre, mais sans la splendeur, sans la gloire de la ville mythique d'autrefois. Ce sont les mêmes hommes, les mêmes guerriers légendaires de Grèce qui ont détruit ces deux villes en deux campagnes. Ils ont abattu d'abord Thèbes, puis Troie. Parmi ces hommes, il y avait notamment le grand héros Diomède, Diomédès, dont le nom veut dire la pensée de Zeus. Dio dit bien de Zeus, et Médès rappelle notre mot méditation. Diomède a dans les deux cas réalisé la volonté de Zeus, faire disparaître ces villes légendaires trop belles, trop fastueuses, parfaites et trop criminelles. Plus aucune ville dans le monde n'aura cette splendeur. Ce Diomède est venu à bout de Thèbes, là où son père Tidée avait d'abord échoué. Puis il s'est embarqué pour Troie. Il y a fait 10 années de guerre. Il a participé à la victoire, à la prise et à la mise à sac de la ville. Il est l'un des rares héros grecs à revenir chez lui en Grèce, sain et sauf. Diomède et ses camarades accomplissaient à la volonté de Zeus. Mettre fin à une époque de l'histoire de l'humanité, où les dieux et les humains se fréquentaient, s'aimaient, faisaient des enfants ensemble, se querellaient. Une époque fabuleuse et terrible en même temps, où les hommes pouvaient acquérir une puissance quasi divine, pouvaient être semblables aux dieux, comme à Thèbes l'a été Œdipe, ou dans la plaine de Troie, Achille, Ajax, Hector, Paris, Ulysse ou Diomède. Des villes où des femmes comme Jocaste, Hécube, Hélène, Cassandre, Andromaque, Antigone pouvaient agir avec une puissance stupéfiante. Cette époque, que les Grecs appelaient l'âge des demi-dieux ou des héros, est finie, définitivement révolue, c'est irréversible. Elle a fini avec les guerres dévastatrices de Thèbes et de Troie. Dans son poème « Les travaux et les jours », le poète de la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ ou du début du 7e, Hésiode, que nous avons déjà souvent rencontré, fait de ces deux guerres la catastrophe qui a mis fin à la génération humaine qui a précédé la nôtre, celle des héros, des demi-dieux, créés par Zeus.
La race divine des hommes héroïques qu'on appelle demi-dieux, la génération d'avant nous sur la terre infinie, la guerre mauvaise et la mêlée revêche l'ont détruite. Les uns périrent sous Thèbes aux sept portes, en terre cadméenne, quand ils combattaient pour les troupeaux d'Œdipe. Les autres, quand des bateaux allant sur le grand gouffre de la mer, la guerre les a conduits à Troie, à cause d'Hélène à la belle chevelure.
Quelques héros chanceux ont été immortalisés par Zeus. Ils vivent désormais sur les bords du fleuve Océan, dans le lieu merveilleux que personne n'a vu, qui s'appelle l'île des Bienheureux. Confinés dans ce bonheur lointain, ces héros tranquilles du temps passé sont coupés de tout, complètement out et inutiles. Ils n'existent que par les poèmes qui parlent d'eux et qui font rêver. Depuis ces guerres de Thèbes et de Troie, les humains vivent désormais loin des dieux. Ils ne sont plus en contact direct avec eux. Pour parler aux dieux, pour les atteindre et les émouvoir, il faut désormais passer par des rites religieux, des prières, des sacrifices, où les dieux restent invisibles, ou écoutés sans vraiment les comprendre, les prophéties de devins plus ou moins obscurs et inspirés. Ça ne veut pas dire que les humains soient désormais laissés à eux-mêmes. Les dieux interviennent toujours dans leur vie quand ils veulent, mais ils le font sans se faire voir et de manière imprévisible. C'est pour ça que ces histoires lointaines, qui racontent l'âge des héros, l'âge des demi-dieux, sont si essentielles. Les histoires de Thèbes et de Troie. Au moins, on y voit comment agissent les dieux, ouvertement. On voit jusqu'où ils peuvent aller, comment ils prennent leurs décisions. Et on voit comment les mortels ont pu réagir. Troie et Thèbes, deux idées très différentes et même franchement opposées de ce qu'est une ville, une société, de ce qu'est le vivre ensemble, entre humains et avec les dieux, et aussi avec la terre où l'on habite. Les Grecs vont organiser une grande partie de leur mythologie autour de ces deux villes mythiques, autour de leur contraste. Essayons de voir pourquoi Troie et Thèbes fascinaient autant les Grecs. Cette fois, ce ne sera pas l'histoire d'un personnage divin ou humain. Nous ferons du tourisme.
Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin celui qui pétille, même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches, et le plus souvent, lundi sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits, les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qui là-haut se promènent, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la mer à deux pas de l'étoile, les jours de grand vent. Nous aurons l'hiver avec une cigale dans ses cheveux blancs. Dans tous nos problèmes et tous nos discours finiront par « Je t'aime, vienne, vienne alors ».
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de la Combe parle de Troie et de Thèbes,
les deux grandes villes de la mythologie.
Commençons par l'histoire de Troie.
La situation privilégiée de la ville de Troie, telle qu'elle existait il y a 30 siècles, la désignait tout particulièrement pour devenir la plus grande cité de l'Antiquité. Elle dominait en effet l'Hellespont. Nul ne pouvait venir d'Orient ou y partir sans passer par cette route maritime. Pour cette raison, la prospérité de Troie était grandissante. Mais toute médaille a son revers. Et la Grèce entière regardait avec envie s'accroître la richesse de son trop florissant voisin. Les Troyens n'ignoraient rien de cette convoitise. Aussi s'étaient-ils garantis contre toute attaque en élevant de hautes et puissantes murailles. Derrière ces murailles, vivait un peuple heureux et épris de beauté.
Tout remonte à un certain Dardanos. On retrouve son nom dans celui des Dardanelles, ce nom plutôt moderne donné par les Vénitiens, au détroit long et peu large, souvent chahuté par les vents, la navigation y est difficile, qui sépare l'Europe de l'Asie et fait passer de la Méditerranée à la mer de Marmara. Les Dardanelles, où s'est déroulée une bataille féroce et inutile pendant la Première Guerre mondiale. Les anciens appelaient ce détroit l'Hellespont. Ce Dardanos avait fondé dans la région une ville qui reprenait son nom, Dardania. C'est l'ancêtre de la ville de Troie. Dans l'épopée, on dit souvent les Dardaniens pour désigner les Troyens. Dardanos avait eu une existence mouvementée. Il était un fils de Zeus et de l'une des Pléiades, Electra. Cette Electra avait comme père le dieu Atlas, ce dieu très costaud, qui se tient debout au bord de l'océan et soutient la voûte du ciel. Nous l'avons rencontré à propos du dieu Hermès. Malgré cette naissance divine, Dardanos était mortel, mais il était le fils humain que Zeus aimait le plus. Zeus, nous dit Homère, le chérissait. Selon une légende, Dardanos vivait d'abord avec son frère en Arcadie, ce pays sauvage, pays montagneux de forêts, d'animaux, de satyres et de nymphes. En Grèce, une sorte d'océan boisé en pleine terre, un lieu à part. Ça va bien pour un descendant d'Atlas. Or voilà qu'un déluge recouvre les terres, et presque toute l'Arcadie, seul émergent quelques sommets. Il n'y a plus de place pour tout le monde. Dardanos et son frère s'en vont. Ils arrivent dans une île où ils commencent à s'installer, l'île de Samothrace. Mais la terre y est pauvre. La vie n'est pas facile. Et, catastrophe, le frère de Dardanos meurt. Ce frère s'était épris de la grande déesse Déméter, une sœur de Zeus. L'union a lieu. Zeus, qui n'avait pas été seulement le frère de Déméter, mais aussi son amant, voit cela d'un très mauvais œil. Il envoie sa foudre contre ce petit prétentieux qui meurt. Désemparé, désespéré, Dardanos part à nouveau. Il traverse la mer et rejoint les côtes de l'Asie. On dit parfois qu'il flottait sur les eaux comme une mouette, en s'aidant d'une outre de cuir cousue et remplie d'air. On dit aussi que c'était sur un radeau, ou au contraire avec une flotte importante, c'est selon. Arrivé en Asie, Dardanos fonde la ville d'Ardania, au pied du mont Ida, belle montagne de Troade, altitude 1774 mètres. Montagne sauvage, où abondent les sources, où courent les bêtes. Le dieu Apollon avait déconseillé à Dardanos d'implanter sa ville près de la mer, là où il est arrivé, et là où quelques générations plus tard sera créée la ville de Troie. Apollon lui donne ce conseil, sans doute parce que ce lieu, la colline de Troie, peu éloignée du rivage, allait abriter tant de désastres venus de la mer, quand débarquera l'armée des Grecs. Et le déluge avait dû laisser un mauvais souvenir. Le bord de mer était un lieu trop ouvert, dangereux. Dardanos choisit donc les premières pentes du mont Ida, lieu magnifique, protégé. Ce n'est que plus tard que ses descendants se rapprocheront de la mer. Ce mont Ida était un monde sauvage et idyllique. C'est l'équivalent en Asie du pays fabuleux et couvert de forêts qu'est en Grèce, l'Arcadie, pays d'où vient Dardanos selon certaines traditions.
L'Ida et ses mille sources, mère des fauves,
dit Homère. Ce pays retiré est le pays des amours. C'est là que Zeus, le chef des dieux, et Héra, son épouse légitime, retrouvent la force de leur premier désir. Ils s'unissent. La montagne participe à la fête.
Pour eux, la terre divine fit pousser l'herbe d'un nouveau printemps. Et le lotus couvert de rosée, et le crocus, et la jacinthe, dense et souple, qui, la couvrant, protège de la terre. En ce lieu, ils couchèrent, revêtus d'une nuée belle et dorée, d'où scintillante, tombaient les gouttes de rosée.
Le mont Ida est le pays des bergers, et donc aussi des amours. C'est là que la sublime Aphrodite tombera raide amoureuse du beau prince Anchise, qui avait mené ses troupeaux. Ils s'unissent dans sa cabane, et c'est le petit aîné qui naît. C'est sur l'Ida que la même Aphrodite gagnera le concours de beauté qui l'opposera à Athéna et à Héra. Leur juge sera le jeune et très beau Paris qui y garde ses troupeaux. Lieu touffu, sauvage, qui abrite les plaisirs, le mont Ida était aussi dangereux. Il sera à l'origine de la guerre de Troie. Quand Paris, encouragé par Aphrodite, qu'il a préféré aux deux autres déesses, descendra de sa montagne pour annoncer qu'il va construire un bateau et aller chercher Hélène en Grèce, il apportera la destruction à tous les Troyens. Et c'est sur la cime la plus élevée du mont Ida que Zeus viendra s'asseoir pour contempler la guerre entre Grecs et Troyens et y prendre plaisir. Le spectacle sera saisissant. Le nom même de la montagne, Ida, rappelait aux Grecs le verbe voir, idaigne, que l'on retrouve dans notre mot idée. Dardanos, prudent, fonde sa ville en bordure de ce monde sauvage et ambigu, juste au pied de la montagne, loin de la mer et de ses dangers. Homère fait allusion dans l'Iliade à cette histoire.
Zeus, qui rassemble les nuages, engendra d'abord Dardanos, qui fonda Dardania, car Troie la Sainte n'était pas encore établie dans la plaine comme ville des hommes nés de la terre. Les hommes habitaient encore le piémont de l'Ida aux mille sources.
Au pied du mont Ida, Dardanos implante une cité. Cette terre était vide. Un roi du coin lui avait donné ce territoire, car il ne voulait pas que son grand pays reste un désert. Cette ville nouvelle a prospéré, s'est enrichie. Elle a produit des merveilles. Les dieux pouvaient l'admirer. Il paraît que le fils de Dardanos était devenu l'homme le plus opulent du monde. Il avait 3000 chevaux. Parmi les arrière-petits-fils de ce Dardanos, il y avait le jeune et beau Ganymède. Zeus le vit et en devint amoureux. Et d'un coup d'aile, Zeus s'était transformé en aigle. Il l'emporta dans l'Olympe. Immortalisé, Ganymède vit près de Zeus et des autres dieux. Il sert le vin lors des fêtes joyeuses des habitants de l'Olympe. Pour dédommager le père de Ganymède, un dénommé Tros, qui donnera son nom au pays de Troie, Zeus lui offrit des chevaux immortels, splendides et très rapides. Ils seront admirés et convoités pendant des générations. Les Troyens devinrent célèbres dans le monde comme maîtres des chevaux. C'était l'âge d'or. Puis les habitants de Dardanie descendent vers la mer. Et ça va commencer à se gâter. Un arrière-petit-fils de Dardanos, un dénommé Ilos, frère de Ganymède, mais qui lui gardera les pieds bien sur terre et pas dans l'Olympe au service des dieux, s'en va fonder une ville nouvelle qui portera son nom, Ilion, ville qu'on appelle aussi Troie. Pour choisir le lieu où il établira cette ville, il obéit à un oracle qui lui disait de suivre une très belle vache au poil chamarré qu'on lui avait donnée et d'attendre le moment où elle se coucherait. C'est là que cet Ilos implante la ville d'Ilion, à savoir la ville de Troie. Mais tout allait vite dégénérer. La ville n'avait pas encore de remparts. Il fallait en construire. Ce sont deux grandes divinités qui vont en être chargées. Il y avait Poséidon, un frère de Zeus. Ce dieu puissant qui secoue la terre sait faire éclater des rochers avec son trident. Il pouvait donc bien se procurer des pierres pour construire un mur. Il y avait aussi le dieu de la lumière, Apollon. On ne sait pas bien pourquoi Poséidon et Apollon ont dû faire ce travail. Zeus les y avait obligés. Sans doute que Poséidon et Apollon s'étaient un jour ou l'autre rebellés contre Zeus, leur supérieur. Toujours est-il que Zeus les mit au service du roi qui régnait sur la ville de Troie. Ce roi s'appelait Laomédon, un nom qui signalait seulement sa fonction de roi, chef du peuple. Poséidon et Apollon travaillent dur, pendant un an comme ouvriers salariés. Quand, au bout de leur année de travail, les dieux réclament leur salaire à Laomédon, celui-ci se moque d'eux. Il ne les paye pas. Il menace les deux ouvriers divins. Poséidon raconte lui-même cette tromperie et s'en plaint amèrement.
Mais quand les saisons joyeuses apportèrent le temps du salaire, Laomédon, effrayant, nous fit violence. Il garda le salaire entier, nous chassa et nous menaça, menaçant de nous lier les pieds et, au-dessus, les mains, et de nous vendre sur des îles lointaines. Il se flattait de nous écorcher, de nous couper les oreilles avec le bronze. Nous repartions, la rancune au cœur, plein de colère à cause d'un salaire promis et non honoré.
Les dieux sont traités comme des moins que rien. Poséidon décide de se venger. Il fait sortir de la mer un monstre qui attaque la ville de Troie. Affolé, le roi Laomédon appelle à son secours le grand et fort Héraclès, fils de Zeus. Il lui promet que s'il tue ce monstre, il aura les fameux chevaux immortels donnés autrefois par Zeus. Héraclès s'exécute, abat le monstre et réclame son salaire. Encore une fois, Laomédon se dédie. Il ne paye pas. Héraclès ne se laisse pas faire et ravage la ville. Laomédon laisse la place au roi Priam, ce roi qui va devoir se battre 10 ans contre les Grecs. Comme le monstre de Poséidon, ce fléau sortira de la mer.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Pierre Judet de la Combe parle de Troie et de Thèbes.
Deux villes fabuleuses et maudites.
Troie sera toujours, jusqu'à sa ruine, à la fois une cité de la beauté, de la splendeur, de l'abondance, et une cité de l'excès, de la transgression, et donc du châtiment. Côté fastueux, Troie sera une ville de réussite, de fécondité. Le roi Priam a eu beaucoup d'enfants, de femmes différentes. 50 fils et 12 filles. Pour les rassembler tous autour de lui, Priam fait construire un magnifique palais. Ses 50 fils y vivent avec leurs épouses. Ses 12 filles, au lieu d'aller habiter chez leur mari, comme c'est le plus souvent la coutume, vivent là, chez leur père, avec leurs époux. Homère décrit précisément ce palais étonnant.
La maison très belle de Priam, bâtie en colonnades lisses, à l'intérieur, il y avait 50 chambres de pierre polie, construites les unes près des autres. Là couchaient les fils de Priam auprès des femmes qu'ils avaient courtisées. De l'autre côté, à l'intérieur de la cour, faisaient face les chambres de ses filles, 12, couvertes d'un toit en pierre polie, construites les unes près des autres. Là couchaient les gendres de Priam auprès de leurs nobles femmes.
Ce palais peut être un lieu d'harmonie, de perfection patriarcale. Mais tous les fils de Priam seront tués pendant la guerre et ses filles seront tuées ou emmenées en esclavage. Un lieu très particulier dans la plaine de Troie exprime nettement ce qu'est le destin de cette ville, prise entre sa beauté merveilleuse, sa perfection et sa destruction inéluctable. Ce lieu, ce sont deux fontaines côte à côte, deux résurgences du fleuve Scamandre dans la plaine. De l'une de ces fontaines jaillit une eau bouillonnante, fumante. De l'autre, de l'eau glacée, même en été. Ces deux fontaines, si complémentaires, sont une merveille, un équilibre parfait. Grâce à leur chaleur et à leur fraîcheur, Troie échappe à l'alternance des saisons, un lieu paradisiaque. Avant la guerre, avant l'arrivée des Grecs, les femmes de Troie y venaient laver leurs vêtements de luxe. Ce lieu merveilleux est décrit vers la fin de l'Iliade. Achille poursuit Hector pour le tuer. Les deux guerriers courent. Ils s'approchent des fontaines. Ces fontaines qui rappellent un bonheur du temps passé vont être témoins d'une scène cruelle qui annonce la fin de Troie, la mort d'Hector, finalement vaincu.
Hector et Achille passèrent la vigie du rocher et le figuier offert au vent. Toujours plus loin du mur dans leur course sur la route des chars. Ils parvinrent aux deux fontaines de belle eau. Là où des sources doubles s'élancent depuis les tourbillons du Scamandre. L'une coule d'une eau vive, autour une fumée sort d'elle, comme d'un feu embrasé. L'autre s'écoule en été, pareil à la grêle, ou à la froide neige, ou au cristal que fait l'eau. Là, sur leur bord, de larges bassins sont tout près, belles pierrées, où, pour laver les vêtements luisants, venaient les épouses et les filles belles des Troyens, avant, au temps de la paix, avant que n'arrivent les Grecs. Hector et Achille coururent tout près. L'un fuyait, l'autre derrière poursuivait.
Hector sera rejoint par Achille et tué.
Troie, aux larges rues.
Selon la formule d'Homère, ville heureuse, plantureuse et riche, souvent bénie et aimée des dieux. Troie, ville tournée d'un côté vers les hauteurs sauvages, extrêmes et généreuses d'une montagne idyllique, le mont Ida. Et ville tournée de l'autre, vers l'ouverture infinie et périlleuse de la mer. Troie s'est vue comme une ville qui pouvait prospérer par accumulation, par concentration en son sein de la richesse. Elle pensait vivre, imposer sa réussite en tirant bénéfice des deux pôles entre lesquels elle était construite, le mont Ida et la mer. Elle voulait être riche des troupeaux de l'Ida, des chevaux légendaires qui couraient dans sa plaine, et riche de ce qu'au-delà des mers, elle pouvait aller chercher et rapporter avec ses bateaux dans ses murs fabuleux, construits par des dieux. Troie voulait être la concentration magnifique de toutes les formes de richesses possibles du monde, celles qui viennent de la terre, même de ses parties les plus sauvages, comme le mont Ida, et les richesses civilisées, élégantes, les trésors qu'on trouve au-delà des mers. Une ville totale, qui se pensait comme un résumé du monde, une unité parfaite et bien visible. Paris n'a pas hésité à aller chercher du bois sur le mont Ida pour construire un bateau et prendre la mer. Il a ramené à Troie la plus belle femme du monde, qu'Aphrodite lui avait promise Hélène, fille de Zeus et mariée à un Grec. Sans oublier d'embarquer aussi l'or du mari, Ménélas. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Les vagues de la mer vont apporter des démons, l'armée des Grecs. Le coup final sera la construction par les Grecs d'un spectaculaire cheval de bois. Ils le construiront en allant, comme Paris, couper des arbres dans le mont Ida. La boucle est bouclée. Fière, riche, prédatrice, ouverte au monde pour avoir toujours plus de richesses, plus de beauté qui remplissent ses murs, ses palais, ses temples, Troie va s'effondrer. Thèbes, la grecque, l'autre grande ville légendaire, est un contre-modèle par rapport à Troie. C'est tout son contraire. Troie est une ample ville-monde, à la fois terrestre et marine, tournée vers le dehors, vers l'infini, dont elle se nourrit. Thèbes, à l'inverse, est une ville seulement terrestre, terrienne même, bien implantée dans son sol, loin de toute mer, dans la région de Grèce qui s'appelle la Béotie. Sa population passe pour être autochtone, c'est-à-dire issue de sa propre terre. On appelle ses premiers habitants les hommes semés, les Spartes. Ils ont poussé comme des épis de blé. On verra comment, encore une histoire tordue qu'on va entendre tout à l'heure. Thèbes, la terrienne, est connue pour être bien enfermée dans ses remparts, bien closes, avec leurs 7 portes mythiques, un nombre qui dit la perfection.
Thèbes aux 7 portes.
Comme on dit très souvent dans les poèmes. Il faut dire que ces remparts de la ville de Thèbes étaient prodigieux, autrement que ceux de Troie. Leur construction relève du merveilleux. Ces remparts ont été bâtis de manière extraordinaire par 2 jumeaux, Amphion et Zethos, fils de Zeus et d'Antiope. Une femme superbement belle, la fille d'un fleuve, que Zeus a séduite ou plutôt forcée, en prenant la forme d'un satyre. Euripide, le poète tragique, nous raconte l'histoire de ces jumeaux et de leur mère dans sa tragédie Antiope. Nous en avons gardé quelques extraits. Les 2 jumeaux vivaient cachés chez un berger. Leur mère Antiope avait été mise enceinte par Zeus. Elle en avait honte et avait confié les 2 bébés à un berger. Les 2 jumeaux grandissent. Ils suivent des voies opposées. Zethos cultive le sport, ses muscles, le labeur, les travaux de la campagne. Amphion, l'autre jumeau, s'adonne à la musique. Le dieu Hermès qui passait par là lui donne une lyre et lui apprend à en jouer. Le désaccord entre les 2 frères est devenu très célèbre dans l'Antiquité. Ils discutent, argumentent l'un contre l'autre, chacun avec un point de vue bien défini. Zethos s'en prend violemment à la musique que pratique son frère Amphion.
Tu vas créer une série de malheurs en faisant venir ta muse. Elle est fainéante, assoiffée de vin, et elle néglige l'argent. Allez, Laisse-toi persuader. Arrête de faire n'importe quoi et cultive la belle musique du labeur. Si tu chantes ça, tu passeras pour intelligent. Sarcler, labourer la terre, surveiller les troupeaux. Laisse à d'autres les sophismes élégants. Sinon, tu habiteras une maison vide.
Amphion défend son art musical et les loisirs.
Celui qui fait plein de choses alors qu'il pourrait ne rien faire est fou, puisque en ne faisant rien, il pourrait vivre dans le plaisir.
L'esprit, selon lui, est toujours supérieur au corps.
Tu me reproches d'être sans force et d'avoir un corps féminin. Tu as tort, car si je possède un esprit qui marche bien, c'est nettement mieux qu'un bras costaud.
Les frères vont se réconcilier. Après une suite d'embrouilles sanglantes et compliquées, Amphion et Zethos retrouvent leur mère Antiope. Ils sont accueillis par la ville de Thèbes. Le dieu Hermès vient leur annoncer qu'ils doivent couronner Thèbes d'un rempart. La ville en était encore dépourvue. Chacun des jumeaux participera à l'ouvrage à sa manière. Zethos avec ses muscles. Amphion, tout simplement en jouant de la lyre. Les pierres suivront sa musique et se déplaceront toutes seules, lui dit le dieu Hermès.
Toi, Amphion, commande à ta lyre, bien armée dans tes mains, de chanter les dieux avec des poèmes. Les pierres solides te suivront, charmées par ta musique. Les arbres quitteront leur base dans la terre maternelle et la main des constructeurs aura tâche légère. Zeus te donne cet honneur. Et moi aussi, qui t'ai transmis l'instrument que j'ai inventé, Seigneur Amphion. On vous appellera les deux blancs poulains de Zeus et votre honneur sera immense dans la ville de Cadmos.
Le rempart circulaire aura 7 portes, comme il y a 7 cordes sur la lyre. 7 cordes au son différent. Elles sont dissonantes les unes par rapport aux autres, mais elles produisent une harmonie, une beauté, quand on les organise en une mélodie. De même, Thèbes sera à l'image de cette musique. Elle sera une harmonie rassemblant des différences, une ville musicale, parfaite. Il y avait un autre mythe sur la fondation de la ville. Les Grecs anciens, mais aussi les interprètes modernes, ont toujours eu du mal à relier ces deux mythes. Cet autre mythe débouche lui aussi sur une harmonie à partir de différences, de violences même. C'est l'histoire de Cadmos, de sa vache et du dragon. On la connaît surtout à partir de témoignages tardifs, parfois discordants. Il faut donc être prudent quand on la raconte. Comme Dardanos qui est à l'origine de Troie, Cadmos venait de très loin et il ne savait pas du tout où il allait. Cadmos était phénicien de la ville de Sidon, sur la côte de l'actuel Liban. On le présente souvent comme le frère de la belle Europe. Or Zeus avait vu cette Europe. Il avait été pris de désir, se transformant en taureau et se faisant tout doux, tout gentil. Zeus avait emmené Europe sur son dos par-delà la mer, jusqu'en Crète. Elle y engendrera une lignée que nous retrouverons avec les histoires de Minos, de Thésée, d'Ariane, du Minotaure et du Labyrinthe. Cadmos est inquiet. Il ne sait pas où est sa sœur Europe. Il la cherche un peu partout. Il va finalement en Grèce voir l'oracle d'Apollon à Delphes et lui demande où il peut retrouver Europe. Apollon lui dit d'abandonner ses recherches et de suivre une vache qui n'a jamais porté le joug, qui n'a jamais tiré de charrue. Il la reconnaîtra. Elle a une tache blanche sur chaque flanc. Il devra la suivre jusqu'à l'endroit où, de fatigue, elle s'affaissera. Là, il fondera une ville. Cadmos suit la vache. Il arrive dans une terre qu'il ne connaissait pas et qu'il appellera Béotie, pays de la vache. La vache s'écroule. C'est là que la ville de Thèbes doit être fondée.
Denis Knopfler, historien et archéologue.
Il est clair que Thèbes est la grande cité au cœur de la Béotie, une cité d'une très grande ancienneté qui était considérée, même par les Athéniens qui faisaient cette concession aux Béotiens qu'ils n'aimaient pas beaucoup, comme la plus ancienne cité de la Grèce, très prestigieuse. Et nous voyons bien combien son nom est attaché à un certain nombre de mythes fondateurs de la civilisation grecque, toute la légende d'Édipe en particulier, avec toutes sortes de prolongements, la guerre entre les Argos et Thèbes, les Sept contre Thèbes. C'était un réservoir mythique.
Ce qu'on appelle peut-être la Thébaïde.
La Thébaïde, exactement. La Thébaïde veut dire à la fois le territoire de Thèbes et tout ce qui se rattache à Thèbes, en l'occurrence l'épopée thébaine, Thébaïde.
France Inter. Quand les dieux rôdaient sur la terre.
listening. I wasn't ready at all to say anything about anything interesting. It's the thing you have, you just don't know that you do it. You wait around in a conversation while I get in and start stumbling through it. I was so distracted then, I didn't have it straight in my head. I didn't have my face on yet, or the role or the feel of where I was going with it all. I was suffering more than I let on. The tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I've lied. Got to my feet feeling that I'd let you down. Wanted to say it slow and perfect, but it all somehow got switched around. Something went off on its own, my dumb automatic chit-chat. It's not what I meant to say at all. There's no way you can attach me to that. Got up to seize the day with my head in my hands, feeling strange. When all my thinking got mangled and I caught myself talking myself off the ceiling. I was suffering more than I let on. The tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I'd lie. Oh, where are all the moments we had? Oh, where's the brain we shared? Something somehow has you rapidly improved. Oh, what happened to the wavelength we were on? Oh, where's the gravity gone? Something somehow has you rapidly improved. You found the ache in my argument. You couldn't wait to get out of it. You found the slush in my sentiment. You made it sound so intelligent. You can stop and start an athlete's heart. How do I feel about it? I would love to have nothing to do with it. I would like to move on and be through with it. I'll be over here lying near the ocean, making ocean sounds. Let me know if you can come over and work the controls for a while. I was so distracted then, I didn't have it straight in my head. I didn't have my face on yet, or the role or the feel of where I was going with it all. I was suffering more than I let on. Tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I'd like. Oh, where are all the moments we had? Oh, where's the brain we shared? Something somehow has you rapidly improved. Oh, what happened to the wavelength we were on? Oh, where's the gravity gone? Something somehow has you rapidly improved.
Pierre Judet de Lacombe parle de Troie, la ville grecque,
et de Thèbes, la ville asiatique.
Cadmos veut faire un sacrifice. Il envoie des serviteurs chercher de l'eau à une fontaine pour les libations rituelles. Ils ne reviennent pas. Inquiet, Cadmos y va à son tour. Dans une grotte, il découvre un énorme dragon qui l'attaque. La lutte est rude, mais Cadmos finit par tuer la bête. Athéna, ou Arès, ça dépend des traditions, arrache les dents du dragon mort et les sème dans la terre. Les dents commencent à germer. Sortent de terre, petit à petit, des guerriers tout en armes. Cadmos prend peur. Là, les traditions divergent. Selon l'une, Les guerriers se mettent aussitôt à s'entretuer. Selon une autre, Cadmos, pour les repousser, leur envoie des pierres. Les guerriers pensent que ce sont des guerriers de leur groupe qui les attaquent. Ils s'entretuent. Il en reste 5. 5 survivants. Ces hommes semés, ces Spartoi, comme on dit, les Spartes, mots de la même famille que sperma, la semence, seront les 5 premiers citoyens de Thèbes, la ville qui sera fondée là où la vache s'est écroulée. De ces guerriers vont naître les 5 grandes familles de la ville, des familles autochtones, nées de leur terre. Mais Cadmos n'est pas encore tiré d'affaire. Le dragon qui l'a tué appartenait au dieu de la guerre, Arès. Pas étonnant donc que ses dents se soient métamorphosées en guerrier. Cadmos doit payer la mise à mort du dragon. Il passera une longue année au service du dieu. Puis un avènement est trouvé, dans un mariage. C'est un mariage grandiose. Cadmos, immortel, épouse la fille du dieu de la guerre, Arès, et d'Aphrodite, la déesse de l'amour. Cette fille est la très bien nommée Harmonie. Tous les dieux viennent à la noce. Il y a aussi les muses et les grâces. Elles y ont chanté pour Cadmos et Harmonie. Un poète ancien nous dit que leurs bouches immortelles ont entonné ce gai refrain.
Ce qui est beau, on l'aime. Ce qui n'est pas beau, on ne l'aime pas.
Il faut quand même espérer pour les jeunes mariés que les muses et les grâces auront trouvé mieux comme poésie. Mais cette harmonie n'aura qu'un temps très court. La discorde va vite s'implanter pour longtemps à Thèbes. La ville sera le théâtre de très nombreux désastres. Ces malheurs ne viendront pas du dehors, comme c'était le cas à Troie, quand Paris s'est allé séduire et enlever une femme grecque au-delà de la mer. Ce seront des querelles familiales, internes, qui vont ébranler la ville et finalement la détruire. Nous parlerons de ces querelles, avec les histoires funestes de Laios, de Jocaste, avec les malheurs d'Œdipe et de ses deux fils Éthéocle et Polynice qui s'entretueront, comme se sont entretués les hommes semés du début. Antigone, leur sœur, sera condamnée à mourir dans une grotte par son oncle Créon. Le désastre, à Thèbes, vient du dedans. L'autochtonie, l'harmonie des 7 portes de la ville comme 7 notes de musique ne garantissent rien. La ville se replie sur elle-même et explose. Le mythe de Thèbes est plein de querelles, de violences entre êtres de même origine. Amphion et Zétos, les jumeaux, commencent par se quereller. Les guerriers issus du dragon vont se massacrer. Les fils d'Œdipe feront de même. Thèbes, ville fastueuse, miraculeuse, mais maudite et condamnée, va amener les Grecs à s'interroger sur ce qu'est une cité, une communauté. Athéniens, lacédémoniens, thébains et tant d'autres Grecs d'autres villes se pensaient comme autochtones, comme nés de leur terre, bien de chez eux, et par là libres de toute dépendance étrangère. Mais le mythe leur dit que ce n'est pas si simple. C'est un étranger venu de très loin, Cadmos, qui fait pousser cette moisson guerrière autochtone, et cette moisson d'hommes de même origine a commencé par s'entre-déchirer. Les hommes semés, nés de la terre, étaient des égaux, des strictement égaux. Comment la paix, comment l'ordre peuvent-ils régner entre des êtres de même rang, de même dignité? Quelle autorité peut les empêcher d'entrer en querelle et faire qu'ils se respectent? La question est ouverte. 3. Thèbes. Deux idées opposées de ce qu'est une ville, de ce qu'est la politique. 3. Ville belle, opulente, qui pense que son bonheur et sa survie viennent des richesses qu'elle accumule. Mais quelle règle peut limiter cet appétit de beauté, de bonheur, de richesse? La ville sera tout simplement pillée, dépecée par plus fort, plus rusé qu'elle, par une armée venue du dehors. Thèbes, ville issue de la terre grâce à un étranger, et ville bien close, bien protégée derrière son rempart légendaire. Elle est née sous le signe de l'égalité, égalité stricte entre des guerriers issus d'un même dragon et d'une même terre. Cette égalité d'origine quasi fraternelle va brouiller les générations, va multiplier les querelles. Thèbes sera détruite du dedans par ses querelles familiales. Nous entrerons la semaine prochaine dans les histoires thébaines en commençant par celles mouvementées de Laios, de Jocaste et d'Œdipe. Et j'aimerais terminer ce voyage touristique en Asie et en Grèce avec un tout petit détour par une grande ville qui, elle, a survécu, qui a traversé les siècles, Rome. Pourquoi ? Parce que la légende de sa fondation propose une toute autre conception de ce que peut être l'origine d'une cité, une toute autre conception de la vie sociale et politique. Comme à Thèbes, il y a d'abord un étranger qui vient de très loin, Énée, le fils d'Aphrodite Vénus, un Troyen chassé par l'incendie de sa ville pour un exil définitif. Comme à Thèbes, il y a des frères ennemis, les jumeaux Rémus et Romulus. Ils se querellent et en viennent aux mains. L'un est éliminé, c'est Rémus. Mais surtout, pas comme à Thèbes, pas du tout. Il n'y a pas d'autochtonie, il n'y a pas d'origine commune des citoyens, c'est l'inverse. La première population de Rome que rassemble Romulus, telle que nous la présente l'historien latin Tite Live, est un ramassis de pouilleux, de gens perdus, sans attache. Ils s'agglutinent en venant de partout, en répondant à l'appel de Romulus. Tite Live, l'historien, raconte comment Romulus s'y est pris pour créer ce conglomérat politique.
Pour ne pas laisser vide cette ville immense et pour y attirer une population nombreuse, Romulus prend la vieille méthode des fondateurs de villes, qui rassemblaient autour d'eux un grand nombre de gens obscurs et de basses conditions, et prétendaient qu'une race était sortie pour eux de la terre.
Pour attirer ces nouveaux habitants, Romulus crée un refuge, un lieu d'asile.
Là vient se réfugier des contrées voisines une foule de toutes sortes, un mélange indistinct d'hommes libres et d'esclaves, tous en quête de nouveautés. Et tel fut le premier afflux.
L'origine des habitants ne compte pas, compte seulement leur rassemblement. Romulus comprend vite qu'il faut des lois strictes et une forte organisation politique pour tenir ensemble cette masse disparate. Il la crée tout de suite. Il choisit une centaine de ses hommes, vagabonds venus de partout, et en fait des nobles, des patriciens. Troie, Thèbes, Rome. Trois modèles différents de société. Troie. La ville qui croit qu'accumuler la prospérité suffit, qui croit que la richesse et le succès peuvent tenir lieu de politique et qui s'effondre. Thèbes, la ville qui repose dès le début sur une relation politique d'égalité et pour qui cette égalité vient d'une origine commune, une même terre. Rome, pour qui il n'y a pas d'origine, pas de racine commune, pour qui il y a cité politique seulement s'il y a envie ou nécessité de se rassembler. Quel que soit le lieu d'où l'on vienne, Rome pouvait s'étendre et rassembler, accueillir des citoyens nouveaux, presque à l'infini.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudien. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël Eladad et Laurent Stocker. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Bonne journée sur France Inter.